VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde. Aujourd'hui, édition du jeudi 30 juin 2016. En direct de Washington, Idrissa Sidoudia et Anne Albertson. Tout d'abord les titres.
Au Cameroun, 10 morts dans un attentat suicide dans l'extrême nord.
En République démocratique du Congo, le président Kabila confirme que les élections auront bien lieu.
En Côte d'Ivoire, la défense veut la publication d'un examen psychiatrique d'un ancien chef de milice qui a accusé Mme Gbagbo d'avoir financé son mouvement.
En Égypte, le président Al-Sisi a appelé à corriger les discours religieux et à clarifier la véritable essence de l'islam.
Ici à Washington et pour le directeur de la CIA, John Brennan, le triple attentat suicide à l'aéroport d'Istanbul porte la marque de la dépravation du groupe État islamique.
Et ne manquez pas le journal de l'Euro 2016 ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
Au moins 10 personnes ont été tuées dans un attentat suicide durant la nuit dans l'extrême nord du Cameroun, dans une localité frontalière du Nigeria, a appris l'AFP de sources sécuritaires. Un kamikaze du groupe islamiste armé nigérian Boko Haram s'est fait exploser dans la nuit à Jacana, à la frontière du Nigeria, tuant 10 personnes, a indiqué à l'AFP cette source, s'exprimant sous couvert d'anonymat. L'information a été confirmée par une source proche des autorités de la région.
En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila confirme que les élections auront lieu et il a appelé à la convocation rapide du dialogue. Dans son traditionnel discours à la nation à l'occasion de la commémoration du 56e anniversaire de l'indépendance du Congo, M. Kabila a souligné que plus rien ne pourra arrêter le train des futures élections. Il a par ailleurs lancé un appel au facilitateur Edem Kodjo pour l'ouverture rapide du dialogue politique. Un extrait de sa déclaration avec Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Rien ne pourra arrêter le train de futures élections. Voilà pourquoi je lance un appel solennel à notre peuple, comme je l'avais fait en 2005 et en 2011, de participer massivement aux opérations proprement dites d'enrôlement des électeurs qui débutent dans quelques semaines en vue de l'établissement des listes électorales. Je tiens à vous rassurer que toutes les dispositions ont été prises en vue du financement du dit processus. J'ai eu à l'esprit le souci de doter la classe politique d'un cadre pouvant lui permettre de se donner des gages d'un engagement citoyen à respecter les règles du jeu. Malgré des signaux contrastés envoyés par certains opérateurs politiques, je me réjouis cependant de constater que cette initiative est à ce jour portée à bout de bras par l'ensemble de notre peuple, à travers la société civile et même la majorité de la classe politique. Cette option étant pour moi irréversible, j'encourage le facilitateur désigné par l'Union africaine à finaliser ses consultations en vue de l'ouverture rapide de ce forum.
C'était le président Joseph Kabila de la RDC.
Et pour sa part, le président de la Commission électorale congolaise a souligné que l'inscription sur les registres électoraux se fera à partir de fin juillet, alors que la présidentielle censée avoir lieu cette année semble hautement improbable. Eddie Isango.
Corneille Nangaa, chef de la Commission électorale nationale indépendante, a annoncé que l'enrôlement des électeurs commence à partir du 30 juillet 2016 pour construire un fichier de plus ou moins 45 millions d'électeurs. Cette refonte du fichier électoral se fera par étapes afin d'inscrire tous les électeurs, a dit M. Nangaa, sans préciser la durée de l'opération. Il a tenu ses propos à Kinshasa à l'occasion de la signature des contrats avec les entreprises ayant gagné les appels d'offres pour la fourniture du matériel des révisions du fichier électoral. Les groupes français Gemalto doivent fournir du matériel informatique et les logiciels. La Constitution interdit au président Joseph Kabila de se représenter et prévoit qu'une présidentielle soit convoquée au plus tard 3 mois avant la fin de son mandat qui expire le 20 décembre 2016. En mai, la Cour constitutionnelle avait autorisé les chefs de l'État à rester en fonction dans les cas où ces scrutins ne seraient pas organisés dans les temps. L'opposition qui accuse les chefs de l'État de retarder volontairement les élections et de manœuvrer pour s'accrocher à son poste plus longtemps refuse de participer au dialogue national proposé par M. Kabila en vue d'élections apaisées mais hors délai.
Les avocats de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo, jugée à Abidjan, ont réclamé hier la publication d'un rapport psychiatrique sur un ex-chef de milice qui avait accusé Madame Gbagbo d'avoir financé leur mouvement. Les précisions de John Linden.
Nous détenons les preuves que le témoin a déjà fait l'objet d'un examen psychiatrique, a répliqué hier Maître Ange Rodrigue Dadjé, un des avocats de Madame Gbagbo. Il dit exiger cette expertise en raison de l'incohérence flagrante des propos de Moïse Harold Emetch, chef du GPP, le groupement des patriotes pour la paix actuellement en prison. Maître Dadjé a demandé la publication du rapport avant la poursuite de l'audition du témoin afin de ne pas induire les membres du jury en erreur. De son côté, le président de la Cour, Kouadio Boati, a interrogé le témoin sur sa capacité mentale. « Je suis en possession de toutes mes facultés mentales », a lancé à la barre M. Metch. L'audition de l'ex-milicien suspendu hier devrait donc reprendre ce jeudi après la publication du rapport de l'examen psychiatrique de ce témoin à charge.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Égypte, le président Abdel Fattah al-Sissi a appelé à corriger les discours religieux et à clarifier la véritable essence de l'islam qui prône, a-t-il dit, la tolérance et la compassion pour combattre l'idéologie extrémiste. Éric Manirakiza.
Abdel Fattah al-Sissi se présente comme l'un des fers de lance de la lutte antiterroriste. Il a choisi de transmettre directement son message aux dignitaires religieux d'Al-Azhar, la plus haute institution de l'islam sunnite. Il a rappelé que l'extrémisme constitue une menace majeure pour les pays du Moyen-Orient, mais aussi pour son propre pays, qui a déjà été frappé par plusieurs attentats ces dernières années. La branche égyptienne du groupe État islamique est restée active dans la péninsule du Sinaï. Dans ce discours retransmis à la télévision nationale, Abdel Fattah al-Sissi a déploré que de jeunes étudiants musulmans ont attribué de façon erronée des dires et actes au prophète Mahomet. Il a donc exhorté les dignitaires religieux à corriger ces faux discours sur l'islam. Profitant de cette tribune, le président égyptien a par ailleurs déploré que le Moyen-Orient soit à la traîne dans les domaines des droits de la femme.
Le directeur de la CIA, John Brennan, estime que le triple attentat suicide à l'aéroport d'Istanbul porte la marque de la dépravation du groupe État islamique. M. Brennan a averti que cette organisation terroriste pourrait essayer de tenter la même chose ici aux États-Unis, selon Yahoo News.
Le chef des services de renseignement américain s'est dit très inquiet des capacités du groupe et de sa détermination à tuer autant de gens possible et à perpétrer des attaques à l'étranger. Personne n'a revendiqué l'attentat à l'aéroport international Atatürk, mais la Turquie blâme déjà le groupe État islamique. 42 personnes ont été tuées et 239 blessées quand trois kamikazes ont ouvert le feu avec des armes d'assaut avant de se faire sauter.
Amnesty International et Human Rights Watch appellent à la suspension de l'Arabie Saoudite du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Riyad est accusé d'avoir utilisé cet organe pour faire obstruction à la justice en liaison avec de possibles crimes de guerre au Yémen.
Au Canada, sommet de l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain, hier à Ottawa, le président Barack Obama, le premier ministre canadien Justin Trudeau et le président mexicain Enrique Peña Nieto ont énergiquement rejeté la vague de protectionnisme et d'anti-mondialisation, et ce au moment où les accords commerciaux internationaux sont attaqués aux États-Unis et en Europe.
À une question sur Donald Trump, le candidat républicain à la présidence des États-Unis, messieurs Trudeau et Nieto ont simplement dit qu'il respecterait la volonté du peuple américain. Pour sa part, le président Obama a critiqué, sans le nommer, M. Trump et sa rhétorique. Il s'est adressé au Parlement canadien.
Fin de ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
On passe au sport à présent avec le journal de l'Euro avec Nicolas Pinault. Bonjour Nicolas.
Bonjour Idrissa.
8 équipes encore en course pour le titre final et le début de ce jeudi des quarts de finale.
Oui, le Portugal face à la Pologne, le coup d'envoi à 19h, temps universel, à Marseille, et le choc entre les deux attaquants des deux pays, Lewandowski pour les Polonais contre Ronaldo pour les Portugais. Annoncés archi-favoris du groupe F, les Portugais n'ont terminé que 3e de leur groupe. Les Polonais non plus n'ont pas vraiment survolé la compétition. 2 matchs remportés de justesse face à l'Irlande et l'Ukraine et un match nul contre l'Allemagne, puis une qualification en quart obtenue au terme des tirs au but face à la Suisse. Présentation de la rencontre avec notre correspondant Christian Mpanzu.
Deux équipes au jeu un peu brouillon, deux stars qui peinent à imprimer leur patte sur cet euro. Voilà en quelque sorte le profil de ce quart de finale entre la Pologne et le Portugal. Les Polonais ont arraché leur place au tir au but contre la Suisse et c'est seulement à cette occasion que le capitaine et joueur numéro 1, Robert Lewandowski, a fait trembler les filets. 0 but inscrit dans le jeu pour l'attaquant du Bayern Munich. La Pologne attend le réveil de son joueur phare mais pourra s'appuyer sur le milieu de terrain Jakub Błażejkowski qui s'est montré plus prolifique avec 2 réalisations. Côté portugais, le constat est assez similaire. Sorti miraculeusement de la phase de groupe avec 3 matchs nuls, le Portugal a atteint le top 8 au bout de la prolongation face à la Croatie. Quaresma a été l'homme providentiel et le sélectionneur Fernando Santos comptera une nouvelle fois sur lui pour suppléer Cristiano Ronaldo. Certes, la star du Real Madrid a inscrit 2 buts dans la compétition, mais son jeu est beaucoup moins tranchant qu'en club. Le Portugal a quelques difficultés en attaque donc, mais sa solidité défensive lui a pour l'instant permis d'éviter des déconvenues. Pologne-Portugal, c'est ce jeudi à 21h au Stade Vélodrome de Marseille. Depuis Paris, Christian Mpanzu pour VOA Afrique.
Merci Christian. On rappelle que Cristiano Ronaldo dispute son 4e euro depuis celui organisé en 2004. Alors le Portugal plus que poussif en phase de poule va-t-il enfin se surpasser grâce à sa star? C'est le coup de sifflet de Jules Valentin-Goué.
Bonjour. Le quart de finale de Marseille entre la Pologne et le Portugal oppose 2 pays de football qui ont chacun à une époque donnée rivalisé avec les plus grands pour la conquête des titres majeurs. La Pologne a brillé dans les années 70-80 au plus fort de la suprématie germano-néerlandaise et a fourni au football mondial une pléthore de joueurs de qualité. Le retour de cette équipe dans la cour des grands n'est donc pas un hasard. Invaincu depuis le début de la compétition, le groupe actuel se présente toujours avec le même schéma. La force de la Pologne est derrière, là où un bloc avancé, hermétique, solidaire et au moral d'acier assure l'impunité. Un seul but imparable contre la Suisse a été encaissé en 8e de finale. L'équipe sait aussi se projeter très rapidement vers l'avant, alimentant une attaque où le joueur vedette Robert Lewandowski a choisi de jouer la distraction et créer des espaces pour libérer des partenaires anonymes mais réalistes et décisifs. En face, le Portugal, ce roi sans couronne, qui de Zébio à Cristiano Ronaldo, a aussi inondé le football mondial d'artistes incomparables, avance sans convaincre, mais aussi sans rompre. Il est certain que devant le bloc polonais, les Portugais vont prendre le jeu à leur compte au risque de s'exposer aux contres adverses. Ils ont donc intérêt à ouvrir le score contre une formation qui n'a jamais été menée. Cela obligerait les Polonais à laisser des espaces, un contexte plus favorable au jeu technique des Portugais. Pour tout dire, ici le scénario initial de la rencontre sera déterminant. À demain.
Et vendredi, on jouera entre le Pays de Galles et la Belgique à Lille.
De nombreux supporters belges ont ou vont traverser la frontière pour assister à cette rencontre. On se rappelle que les Gallois ont battu les Belges en éliminatoire de l'Euro 2016. Ils visent une place en demi-finale, ce serait historique. Mais attention, les Diables Rouges sont plus expérimentés, comme nous l'explique Jean-Roger Billon.
Oui, les deux équipes se connaissent bien puisqu'elles se sont quittées sur le score de 0-0 à Bruxelles, tandis que Gareth Bale a inscrit le seul but de la victoire galloise 1-0 à Cardiff le 12 juin 2015. Grosse inquiétude pour les Diables Rouges puisqu'Eden Hazard, touché au quadriceps, ne s'est toujours pas entraîné et est incertain pour la rencontre. De leur côté, les Gallois sont en confiance à l'image de l'attaquant Gareth Bale. En conférence de presse, la star du Real de Madrid a reconnu que la Belgique était une très bonne équipe avec beaucoup de bons joueurs. On rappelle que les Gallois n'avaient jamais participé à la phase finale de l'Euro. La Belgique dispute sa première phase finale depuis qu'elle a co-organisé l'épreuve en 2000 avec les Pays-Bas.
Le reste de l'actualité sportive, en bref, le foot africain.
Oui, la deuxième journée du groupe A de la Coupe de la Confédération. La formation ghanéenne du Medeama a été tenue en échec sur sa pelouse par le Mouloudia Olympique de Béjaïa, 0-0. Après ce résultat, le tout-puissant Mazembe occupe la première place du groupe avec 6 points. Dans le groupe B, les Mamelodi Sundowns ont battu Enyimba 2-1. C'était hier soir à Pretoria.
C'était le journal de l'Euro présenté par Nicolas Pino.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Suite de la bataille judiciaire opposant depuis près de 30 ans les actionnaires de la compagnie de travaux publics Commis Simpex à la République du Congo et portant sur plus d'un milliard de dollars, le cabinet d'avocats White and Case, représentant Commis Simpex, a convoqué la première dame du Congo, de passage à Washington, à comparaître lundi pour une déposition sur les avoirs de l'État congolais. Toutefois, Mme Antoinette Sassou Nguesso est repartie sans répondre à cette convocation. Pour en savoir plus, Timothée Donangmaï a contacté Elisabeth Auger-Gross du bureau parisien du cabinet White & Case.
Commis Simpex, société congolaise, a fait des travaux publics pour l'État pendant les années 80 et en très grande majorité, l'État n'a jamais payé ses travaux.
Alors, on parle de plus d'un milliard de dollars de dettes du gouvernement congolais. Commis Simpex a engagé une action judiciaire pour récupérer ces fonds. Qu'est-ce que cela a donné jusqu'ici?
Il y a eu un premier arbitrage qui a mené à une sentence en 2000. Aujourd'hui, cette sentence vaut, je n'ai pas les chiffres exacts, mais entre 100 et 200 millions d'euros. Et une deuxième sentence en 2013 pour entre 6 et 700 millions d'euros. Nous avons réussi à récupérer quelques millions d'euros en faisant des saisies par-ci par-là, mais pour l'instant, c'est à peu près tout.
Comment le gouvernement de Brazzaville justifie-t-il son refus de payer?
La défense du gouvernement de Brazzaville a toujours été que l'argent n'était pas dû, mais il y a aussi le fait que le pays est pauvre, mais à la base, le pays dit que l'argent n'est pas dû.
De quels moyens disposez-vous aujourd'hui pour contraindre ce gouvernement à payer vos clients?
Nous allons continuer à essayer de saisir les biens de l'État, là où ces biens se trouvent. Il y a aussi donc les subpoenas que mon associé à Washington gère aux États-Unis.
Les convocations,
pour essayer d'obtenir des informations sur les biens, les actifs du Congo aux États-Unis. Puisqu'aujourd'hui, nous avons une décision de justice américaine qui dit que nous pouvons faire exécuter ces sentences aux États-Unis.
Apparemment, vous avez eu aussi des décisions dans d'autres pays.
Oui, donc la première sentence a été exécuturée en Angleterre, en Suède, en Belgique. Pour une des sentences, c'est la décision anglaise qui a été acceptée aux États-Unis comme exécutable aux États-Unis.
Est-ce que vous avez espoir de récupérer ce qui est dû à vos clients?
Bien sûr, ça fait 30 ans que notre cliente se bat. Elle n'est pas prête à lâcher et nous avons donc un grand espoir de pouvoir récupérer l'argent dû.
Elisabeth Auger-Gross du bureau parisien du cabinet White & Case. De nouveaux réfugiés centrafricains sont enregistrés ces derniers jours dans des villages frontaliers situés dans le sud du Tchad par le HCR et ses partenaires. Ces réfugiés ont fui l'insécurité qui prévaut dans la sous-préfecture de Gwandaï, côté RCA. Cette situation constitue une urgence pour la représentation du HCR au Tchad. Le point avec André Kodmajingar.
Ici, nous sommes dans un village mini situé dans la région des Monts de Lam, à environ 1,5 km de la frontière Tchad-RCA. Et ce sont les salles de classe des bâtiments d'un établissement scolaire qui servent de dortoir et constituent en même temps un site de pré-enregistrement des nouveaux réfugiés centrafricains. Pour une population estimée à 5000 personnes pour 1550 ménages, l'on note plus de 300 enfants dont l'âge varie entre 0 à 17 ans, non accompagnés. Ce chiffre pourrait augmenter dans les jours à venir compte tenu de la situation sécuritaire précaire en République centrafricaine. Selon l'OICR, ces réfugiés seront délocalisés sur un site déjà identifié par les autorités locales conformément à la Convention de l'Union africaine. Quelques réfugiés interrogés expliquent leur mésaventure.
Les Seleka, ils ont écrit déposer la gendarmerie nationale de Ngaoundaï. Ils vont venir occuper la partie de Ngaoundaï jusqu'à Banque. Donc tout le monde a eu peur parce que tu ne peux pas voir la mort venir et puis tu restes là.
On est en train de travailler au sein. Et puis, seulement les rebelles qui arrivent, nous ne connaissons pas. J'ai des enfants. Moi, avec ma femme, tout, on est arrivé ici.
Moi, je suis venue avec l'enfant de mon grand frère. Lui, il est parti au champ. C'est ça que j'ai ramené les enfants ici. Mon grand frère, il est parti à Cameroun.
L'administrateur national de protection du SR du Mobé, comme Constant, explique le mécanisme d'enregistrement de ces nouveaux réfugiés.
Nous avons les listes remises par les autorités et on oriente les familles qui viennent entièrement. Parce qu'il faut noter que nous avons également des enfants non accompagnés. Donc, on les oriente par famille devant les différents postes pour les interviews. Et maintenant, à l'issue des interviews, on les enregistre dans les tablettes. Si on constate qu'il y a des enfants à risque, nous les orientons maintenant à la section protection de l'enfance. Et donc, à la protection de l'enfance, on procède aux évaluations. S'il y a des enfants qui traînent éventuellement les cas de paludisme, il y a le partenaire CCC qui s'occupe donc de la prise en charge médicale. Et il y a des cas un peu sérieux qu'on réfère aussi à l'état de district de Maïbokoum.
Pour le chef de la sous-délégation du SR de Gorem, Billy Michel, cette urgence est tout à fait inattendue, car elle arrive au moment où son organisation est en train de préparer le rapatriement volontaire des anciens réfugiés. Toutefois, il parle des défis à relever dans l'immédiat pour ce nouveau groupe.
Nous sommes en saison pluvieuse. On souhaiterait que les gens restent longtemps dans des abris, dans les écoles, ainsi de suite. Ce n'est pas favorable pour l'hygiène. Tout de suite, nos équipes vont se mettre au travail pour construire les abris d'urgence, les latrines d'urgence, mettre des points d'eau qu'il faut, renforcer le système scolaire qu'il y a pour que les réfugiés vivent comme dans les villages.
André Kotumadjingar dans la zone méridionale du pays pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad, 24h sur 24, 93.1 FM.
En Turquie, après le triple attentat suicide qui a fait plus de 40 morts mardi soir à l'aéroport international d'Istanbul, l'attaque n'a toujours pas été revendiquée. Le gouvernement turc accuse Daesh, le groupe État islamique. Idris Fall a joint Ahmet İnsel, professeur de sciences politiques à l'université Galatasaray à Istanbul en Turquie.
Depuis l'année dernière, nous avons eu 4 attentats, mais jamais l'organisation de l'État islamique a revendiqué ouvertement des attentats. Daesh fait pression sur le gouvernement d'Ankara pour que le gouvernement laisse un peu libre ses accès à la Turquie, parce que depuis un an, la Turquie a commencé à fermer ses frontières. Et d'autre part, il y a eu des ressortissants turcs appartenant au réseau de Daesh qui ont été arrêtés. Plusieurs réseaux de Daesh ont été démantelés.
Jusqu'à récemment, l'essentiel des combattants de Daesh venus de l'étranger ont transité par la Turquie et d'autre part, l'essentiel du pétrole que revend au marché noir Daesh passerait aussi par la Turquie.
Alors, cette accusation à propos du marché noir du pétrole, c'est les Russes. Mais la Turquie, comme la Syrie, l'Irak, la Jordanie, sont tous des réseaux de passage du pétrole clandestinement. Ce n'est pas spécialement Daesh, c'est le contrebande du pétrole qui existait auparavant. En ce qui concerne Daesh, le gouvernement turc a soutenu essentiellement les organisations d'opposants au régime de Bachar el-Assad. Certains de ces opposants ont étroite collaboration avec Daesh ou ils s'enrôlent par la suite dans le Daesh, ce qui fait que les armes qui ont été fournies par exemple par la Turquie à des organisations non Daesh mais djihadistes pourraient se retrouver par la suite avec des personnes qui passent dans les rangs du Daesh avec armes et bagages.
La Turquie est aussi membre de l'OTAN, mais les Américains ont préféré armer les Kurdes pour combattre Daesh.
Les Américains, ils ont d'abord préféré armer en Turquie et former une armée sunnite, disons, de islamistes modérés. Mais ce fut un échec total. Les premiers contingents, à leur passage de frontière, ont été soit arrêtés par les militants de Al-Nusra, soit eux-mêmes, ils ont vendu leurs armes et ils sont enrôlés dans les organisations djihadistes. Et à partir de là, la seule résistance efficace contre Daesh, c'est effectivement les organisations kurdes du YPG et leurs alliés.
Ces organisations ne sont pas vues d'un bon œil aussi par Ankara.
Parce que Ankara considère que le YPG est une émanation du PKK. Le PKK est considéré par Ankara comme une organisation terroriste. Ankara a peur qu'une installation d'une organisation émanant du PKK aux frontières de la Syrie lui cause des ennuis en termes de sécurité nationale.
Ahmet İnsel, professeur de sciences politiques à l'université Galatasaray à Istanbul, en Turquie. Fin de la visite du président Barack Obama à Ottawa, au Canada, où il a eu un sommet avec le premier ministre Justin Trudeau et le président du Mexique, Enrique Peña Nieto. L'accord de libre-échange, le Brexit et la lutte contre le changement climatique ont dominé les débats. À l'issue du sommet, ils ont tenu une conférence de presse conjointe. Que peut-on en retenir? Eric Manirakiza a joint à Ottawa Chika Kanyuri, éditeur et rédacteur en chef du magazine Transatlantique.
Ils ont commencé par dire qu'il faut renforcer, après le problème de l'Angleterre, qu'il faut renforcer le libre-échange pour dire que ce n'est pas le libre-échange ou l'ouverture de frontières qui cause des problèmes, mais c'est surtout la façon de l'expliquer aux gens. Et c'est ça qui a permis d'ailleurs directement au président du Mexique de citer nommément Trump, quoi. Tu crois qu'il peut y avoir un monde avec des murs? Et il a été très acclamé. Ils ont aussi parlé de l'environnement. C'est ce qu'ils disent qu'aussi, il faut que ça soit une économie ouverte, mais en respectant les lois de l'environnement, et qu'il faut faire tout pour que dans les années à venir, on puisse aussi avoir l'énergie propre, au moins jusqu'à moitié quoi, de l'énergie qu'on peut utiliser dans tous ces pays.
On a vu les effets du Brexit. Est-ce que ça peut jouer positivement pour réveiller les consciences et éviter ce qu'on a vu?
Probablement que les gens vont être un tout petit peu plus prudents. Je pense que probablement, comme on l'a dit, Obama, c'est l'élection de Hillary Clinton devient véritablement sa cause à lui, puisque sans ça, tout son héritage disparaîtrait. Et je crois que les gens ont commencé à comprendre qu'il y a des affaires qu'on très souvent on croit qu'elles ne sont pas possibles et qu'elles arrivent quand même, comme ce qui est arrivé en Angleterre. Ça devient difficile à gérer, puisqu'on ne sait pas, même au niveau de l'Union européenne. Je crois que ça va donner beaucoup de choses à réfléchir.
Chika Kanyuri à Ottawa.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Quelles seront les conséquences possibles en Afrique du Brexit, la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne? Les accords commerciaux en seront-ils affectés? Y aura-t-il des changements à l'aide au développement? Le Brexit peut-il tout de même offrir des opportunités à l'Afrique? Y a-t-il également une dimension politique qui pourrait affecter le continent? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum ce jeudi à 19h15.
La Minute Éco, John Linden.
Le Conseil gabonais du patronat CGP, qui regroupe près de 80 PME, demande à l'État 47 milliards de francs CFA d'aérer de paiement et de remboursement de TVA. Ces dettes impayées par l'État sont pour certaines liées à l'organisation d'événements internationaux comme la Coupe d'Afrique des Nations de football en janvier 2017 ou encore le New York Forum Africa, organisé chaque année à Libreville par l'homme d'affaires Richard Attias en faveur des investissements en Afrique. La lutte contre la pêche illégale et la construction de parcs nationaux en Afrique occidentale pourrait créer près de 300 000 emplois et générer près de 3 milliards de dollars, 8 fois les 400 millions de dollars que les pays de la zone reçoivent actuellement en vendant les droits de pêche aux étrangers. C'est en tout cas ce que souligne un rapport publié par Overseas Development Institute. La Société Générale de Banque au Sénégal a un nouveau directeur. Il s'agit du Camerounais Georges Ouéga, 46 ans. Le groupe bancaire français poursuit sa politique de promotion de cadres africains à la tête de ses filiales continentales. C'est en effet le deuxième subsaharien à être promu, après l'Ivoirien Sionlé Yeo, qui dirige la filiale ghanéenne.
Ça
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme, Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h, temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-31-40. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-37-31. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.